France Culture.
Joinville, bonjour. On a les premiers concurrents du 45. Ouais, on a des sourires, c'est un peu crispé quand même, mais ça va, ça va, ça va le faire. 45 bornes, vous allez voir. Magnifique tour de l'île, une découverte. Hé,
hey, voilà, hé, oh, c'est ça le fignon là. Ah non, mais t'as mis de rien.
Allez, je vous le disais donc, bienvenue à toutes et à tous, 13e édition du Trail de Lilieux. Ce matin, bienvenue à tous les coureurs, bienvenue à toutes les coureuses. Vous êtes 1000 sur les 3 distances, 4 épreuves, je vais vous expliquer tout ça. Bienvenue donc sur cette magnifique île Dieu. Alors justement, quelques mots sur cette île. C'est une île française donc du département de la Vendée, dans les régions Pays de la Loire. Lilieux est situé à 17 km, un peu plus de 17 km au sud-ouest de Notre-Dame-de-Mont sur le continent. Voilà, qui est le point le plus proche. Elle s'étend sur 9,8 km de long entre la pointe du but. Alors la pointe du but, vous la verrez tout à l'heure, hein, vous allez passer assez tôt sur la pointe du but. C'est bien, vous serez encore lucide pour tous les coureurs. La pointe du but et puis la pointe des Corbeaux au sud-est, donc là-bas à l'opposé. Pour une largeur maximale de 3,9 km. Donc avec ces kilométrages-là, vous comprendrez que notamment sur le 45, on va vous faire faire quelques tours aussi dans l'île. Vous allez voir les contours de l'île, mais vous allez visiter aussi l'intérieur de l'île. On a deux visages distincts que vous allez découvrir sur cette île. La côte orientale, qui est plus sablonneuse et verdoyante.
Île Dieu, le plus petit hôpital de France. Michel Pomarède, Thomas Duterre. Deuxième épisode, les urgences. Tout le monde sur le pont. Marc-Antoine Larvor, c'est quoi cette voiture ?
Voiture du médecin de garde de Lilieux, où on a le matériel nécessaire pour intervenir à domicile, de jour comme de nuit. Dans le matériel qu'on a, c'est un Corpuls, qu'on appelle vulgairement un scope, qui a l'avantage de permettre de mettre des patchs sur les patients, de prendre les données vitales, la tension, la saturation d'oxygène. C'est un petit bijou de technologie, ça vaut quelque chose comme 50 000 euros. Et c'est une carte SIM à l'intérieur qui est connectée et qui se connecte directement au réseau. Et quand on l'allume et qu'on branche les patchs sur le patient, le scope se met en communication directement avec la salle de régulation du SAMU 85 à La Roche-sur-Yon. Et comme ça, notre médecin régulateur qui nous déclenche sur une intervention, eh ben, lui aussi, il a les paramètres vitaux du patient en direct live. Ça nous permet de faire des ECG, d'envoyer des ECG au cardiologue, électrocardiogramme, par exemple pour quelqu'un qui fait un infarctus. On fait l'électrocardiogramme avec cette machine et automatiquement, le tracé est envoyé sur la boîte mail du cardiologue de garde qui tout de suite voit l'électrocardiogramme et qui nous donne la marche à suivre, le diagnostic et puis les thérapeutiques préconisées. Ensuite, on a tout le matériel qui est dit de la zone blanche, c'est-à-dire en gros un sac qu'on voit dans les SMUR avec les ampouliers, toutes les drogues, pour perfuser, le matériel pour intuber, le matériel pour perfuser, pour ventiler un patient. Tout est bien classé, comme ça dans l'urgence, eh ben, on va directement sur le matériel nécessaire. Et puis on a en plus ce qu'on appelle une voie intra-osseuse, ce qui permet de mettre une perfusion dans le tibia, par exemple, d'un patient qui est inconscient, qui n'a plus de circulation, on ne peut pas le perfuser, eh ben, on va directement dans la moelle osseuse. Et on met les drogues de réanimation tout de suite. C'est comme ça qu'on va au plus vite. En tout cas, ça marche très bien pour notamment les noyer. C'est assez efficace.
Si on récapitule, Marc-Antoine Larvor, quelqu'un a un problème ici, appelle le 15. Et le 15 vous appelle vous. Ouais. Et quand vous partez en intervention, toutes les interventions sont répercutées à La Roche-sur-Yon avec un médecin régulateur. C'est comme ça que ça marche ?
Exactement. C'est-à-dire que nous, on est effecteurs. C'est-à-dire que il y a un patient ou un témoin d'un accident qui appelle le centre 15 de la Vendée en composant 15. Il y a un médecin régulateur qui prend l'appel, qui fait un premier diagnostic de situation. Si la personne est consciente, inconsciente, l'âge, le sexe. Nous, il nous déclenche sur la zone d'intervention. On branche notre malade avec tous nos petits appareils et on fait notre première évaluation. Et ensuite, on se met en conférence avec le médecin régulateur pour faire un diagnostic commun et décider de la marche à suivre sur les thérapeutiques à entreprendre tout de suite et puis sur la destination du patient. Est-ce qu'on l'amène à l'hôpital de Lille-Dieu pour un premier bilan ou quand c'est très grave et que le diagnostic est évident, tout de suite, on nous demande de rouler, par exemple, sur la DZ de l'aérodrome ou sur la DZ du port pour une évacuation sanitaire immédiate.
Là, on est sur le parking de Dumonté. Est-ce que vous pourriez décrire le bâtiment ? Parce que quand on parle hôpital, on imagine bâtiment à plusieurs étages, et c'est pas tout à fait le cas.
Eh ben non, un bâtiment de plein pied, tout est en rez-de-chaussée. Ça a des avantages, hein. Ça veut dire qu'au moins on est en accès, personne à mobilité réduite partout. Mais non, c'est une petite structure. Je crois que la dalle fait 1000 mètres carrés, pas plus. Et ça nous permet, en fait, une petite unité comme ça de bâtimentaire, et ben de pouvoir y mettre une unité d'hospitalisation de 12 lits, un plateau technique de soins de consultation externe, une unité de médecine d'urgence avec salle de radiologie, salle d'échographie, on a même une salle qu'on vient de mettre en place pour faire des petits actes de chirurgie. Donc finalement, c'est un petit hôpital, c'est même le plus petit hôpital de France dans sa configuration MCO, médecine chirurgie obstétrique, mais qui finalement a tout d'un grand, c'est-à-dire qu'on est équipé un peu comme les grands, mais en format plus réduit.
Le programme de votre journée, Marc-Antoine Larban ?
Bah là, on va allumer tout le matériel, vérifier justement le fonctionnement du scope. On a des procédures tous les matins pour vérifier que c'est bien opérationnel. Et puis, on va voir, c'est un peu l'inconnu, c'est ça, le soin non programmé par définition. On va avoir peut-être des traumas, je sais qu'on a mis des radiographies programmées, une échographie cet après-midi. Enfin, on va voir au fil de l'eau, ça peut être très calme, comme ça peut partir au quart de tour. On ne sait jamais, c'est ça aussi la médecine d'urgence en fait.
Il est donc 9h à l'église de Lille-Dieu. Votre garde se termine à quelle heure ?
Alors, en présentiel, je suis là jusqu'à 19h, 20h. Et après, à partir de 20h, je suis en astreinte opérationnelle à domicile. Donc, je suis chez moi, mais je suis près de mon téléphone, jusqu'à 8h30 demain matin. Oui. Voilà. Et puis demain, comme je suis de garde aujourd'hui et que je suis potentiellement réveillable la nuit, je ferai du temps non clinique. C'est ce qu'on a mis en place ça depuis un an maintenant. C'est de considérer que quand vous avez fait une garde, une journée de 12 heures, la journée plus une astreinte opérationnelle à domicile, c'est pas sérieux de vous mettre à soigner des malades. Vous n'avez pas le même niveau d'écoute. Par contre, je peux faire du travail administratif. Donc j'ai quelques réunions de prévues demain pour participer au fonctionnement de l'hôpital et au projet d'aujourd'hui et de demain, quoi.
C'est ça, être chef de service à Dumonté ?
C'est ça. C'est à la fois faire le métier de médecin classique, comme tous mes collègues, et en plus d'avoir une casquette un peu de délégué de classe, qui a pour but d'être, à mon sens, l'oreille attentive de la direction. C'est-à-dire de proposer, d'être force de proposition en permanence à la direction, de donner des arguments. Les personnels administratifs sont pas forcément médecins, ils ont un point de vue, qui est souvent un point de vue économique, qui est pas mauvais, hein, mais il faut l'orienter et guider les administratifs pour améliorer les conditions de travail, les conditions d'accueil des patients et que ce soit le plus fluide possible.
Donc ça, vous allez le tester, là, ça ?
On va le tester, là.
Ben, venez. Je vais vous montrer ça.
Par là. Vous accueillez aussi des internes. Oui, bah il y a l'interne qui est là. Qui est normalement avec mon collègue.
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est Marie.
Normalement, je sais faire en plus.
Essaye de le faire.
J'ai ça et tu vois, j'arrive pas à l'allumer.
Tu l'allumes et tu la petite pochette de derrière et t'enlèves les palettes.
Ouais, c'est ça, j'enlève.
Intervention test. Tu mets où il a intervention.
Ah oui, c'est là.
Évaluation du rythme cardiaque.
Donc là, voilà, il a détecté que c'était le boîtier de test. Tu charges. Voilà, il monte à 200 joules. Et tu appuies sur le cœur long. Voilà, c'est bon. Et là, il va sortir tout seul le compte-rendu. 200 joules sélectionnés. Voilà, et là maintenant, tu vas dans Explorer.
Alors, Explorer.
Voilà. Et normalement, voilà, c'est tout. Et la procédure est terminée. Et on va voir. Ben, il a délivré 200 joules. Exactement.
Tout pile.
Tout pile. Okay. Donc, on a sélectionné 200 joules. Et il a bien délivré 200 joules. En tout cas, on est au-dessus de 180 joules. Donc, on est bon pour la journée. Voilà.
C'est un peu comme un check-up pour un pilote avant le décollage.
Exactement. Exactement. Bah, en fait, on coupe tout le matériel la nuit. Bon, déjà pour éviter que ça chauffe de trop, hein, parce que c'est du matériel qui a pas mal de tension. Et puis, ça reboot les systèmes informatiques. Comme ça, on est sûr que bah, dès qu'on a besoin du matériel, ça démarre. C'est prêt.
Vous êtes médecin ici, à Dumonté.
Oui.
Racontez-moi la nuit que vous venez de passer.
La dernière nuit, je me suis fait réveiller pour des urgences.
Vous êtes ici depuis combien de temps ?
Moi, je suis arrivé en 2020. C'est le Covid qui m'a amené ici, parce que je viens de la région angevine. Et je ne connaissais pas du tout l'île-dieu, hein, particulièrement. Et finalement, bon, j'ai saisi une opportunité. Et au début, c'était pour un mois et j'y suis resté.
Qu'est-ce qui vous a retenu ?
Alors déjà, ça attire un certain profil de médecins, hein, l'île-dieu, des médecins généralistes qui sont en quête de polyvalence, se trouvent un peu limités en fait dans une activité de cabinet de médecine générale. Et puis, donc il y a le côté du le travail d'abord, et puis après, dans un second temps, en fait, apprendre à vivre ici, c'est-à-dire une temporalité qui est un petit peu différente dans les vies personnelles, qui est plus lente. Alors, pas forcément dans le travail avec les nuits, les week-ends, etc., mais vraiment la capacité des gens à finalement savoir attendre, différer, la reconnaissance aussi, ça c'est quand même très important, parce que les gens savent qu'on outrepasse nos fonctions assez régulièrement, et donc la reconnaissance, elle est quasi immédiate, hein, même pour les remplaçants qui viennent d'arriver, c'est... Les gens font confiance très rapidement et ça, c'est agréable.
Pourriez me raconter, Pierre-Antoine Moussard, votre installation ici ?
Alors, le logement, c'est une question. Et ça va être une question toujours à l'avenir. Combien de fois j'ai déménagé ? Parce que je suis venu 2 ans. J'ai dû déménager 5 fois en 2 ans, au début, en colocation avec des collègues. Voilà, et puis après j'ai eu de la chance, alors ici le bouche à oreille c'est assez vite, donc quand on cherche à acheter une maison, ça se sait assez rapidement. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur des propriétaires qui avaient une opportunité d'une autre maison, et puis avec des convictions, c'est-à-dire qu'ils voulaient vendre à quelqu'un qui réside à l'année ici. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont fait des efforts sur le prix, parce que, bon, on est sur une île, c'est à peu près la même situation que sur le littoral, donc des prix exorbitants. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens qui avaient des convictions et qui voulaient pas, en fait, qui ne cherchaient pas uniquement l'appât du gain, finalement. Donc, non, j'ai eu beaucoup de chance.
Depuis 5 ans, est-ce que vous vous sentez un peu plus îlet ?
Est-ce qu'on devient îlet ? Ça, c'est la question, je ne répondrai pas à ça. Insulaire, ça, oui, je peux le dire. Îlet, je ne pense pas, parce que... Et puis, ce n'est pas un objectif, finalement. Finalement, c'est de s'intégrer. Sur le plan professionnel, c'est assez facile. Dans l'équipe médicale, il n'y a aucun médecin îlet. Il y en avait un qui a fait toute sa carrière ici, mais qui est parti en retraite. Mais dans la vie personnelle, il y a une activité associative qui est extrêmement importante ici, et donc finalement c'est par ce biais qu'on peut s'intégrer plus facilement, parce que c'est vrai que par le travail on soigne les gens, donc on a une relation un petit peu particulière par rapport à la population. Donc il faut réussir à sortir, je trouve, de ce cadre d'uniquement du soin pour pouvoir réussir à s'intégrer.
Vous faites partie d'une association?
Alors, je fais pas partie d'une association, mais je participe à des activités. Donc, les cadres associatifs, ça se passe à la Citadelle, où il y a énormément de salles. Et donc, tous les soirs, entre de la musique, activités sportives, de la danse, il y a énormément d'activités. Oui, je participe à certaines activités, ouais.
On vous retrouve ici à l'hôpital Cord demain, après-demain.
Moi, je vais médicaliser le trail de Lillieu. Donc, je serai sur le stade. Ça fait 2 ans désormais que je fais ça, parce que on a décidé de changer un petit peu l'organisation l'année dernière. Voilà, et puis ça se passe très bien maintenant. Je connais bien les organisateurs. Voilà, et ce côté aussi encore relationnel qui revient.
Il y a eu des pépins sur le trail l'année dernière ou l'année d'avant ?
Il y a 2 ans, en fait, on est au moment de forte chaleur. Il y a eu quelques soucis médicaux, et donc ça nous a obligés à repenser l'organisation.
Allez, c'est ça pour les appeler. Bah écoute, il est 7h59, il va y avoir quelques secondes encore. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Pour courir, il faut être réveillé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est mieux. Allez, on est parti. Allez, Cyril, quand tu veux, quand on brûle. Allez, prenez du plaisir, éclatez-vous. Ouvrez les yeux. Profitez de cette île magnifique.
Après, vous voulez pas attendre de gérer avec son traitement déjà que vous avez mis en place, hein ? Ouais. Ouais. Écoutez, vous allez venir à 16h15 voir le docteur Bois cet après-midi, d'accord ? Oui. Donnez-moi sa date de naissance. Alors, 2019. Voilà, c'est noté. Au revoir.
Karine Boris, votre rôle, c'est quoi exactement ?
Nous, notre rôle, c'est d'accéder à la demande des gens, d'accéder à la demande de...
des personnes qui veulent voir un médecin. On essaye au mieux de les diriger soit au niveau de l'urgence directement à la SAS si on sent que c'est plus urgent et qu'il y a besoin derrière de radio ou d'un électro ou voilà, où on voit que c'est un peu urgent entre guillemets. On se dit ça sent un peu les vassades, donc ça on les dirige directement sur l'hôpital. Sinon, si c'est des rendez-vous urgents à la journée, style otite ou des enfants ou infections urinaires, choses comme ça, on les met à aujourd'hui. On a toujours des rendez-vous bloqués. Et puis après, si c'est pas urgent, style renouvellement suivi, ben c'est à 3 semaines à peu près. Là, on est à peu près à 3 semaines de délai, quoi.
Je vous écoutais là quand vous parliez au téléphone. Vous êtes aussi plein de conseils aux gens.
Alors oui, on conseille beaucoup les gens. Oui, on fait aussi beaucoup de psy aussi. Les gens se confient beaucoup à nous aussi. Oui, ouais. Oui. En fait, on est un peu le pilier, c'est nous qui concentrons tous les appels et qui, voilà, les gens arrivent, enfin voilà, on passe un peu du coq à l'âne parce qu'il faut facturer, il faut répondre au téléphone, il faut accueillir les gens, faut... et tout ça en restant bien concentré pour ne pas passer à côté d'une urgence qui pourrait être vitale après et que nous, on est passé à côté, quoi.
Vous avez une formation médicale ?
Pas du tout. C'est la formation, voilà, au niveau des années, et on se forme sur le tas, ouais.
Vous êtes née ici ?
Oui, enfin à Challans, mais je suis native d'ici, oui.
Comment elle a évolué, l'Île-Dieu, depuis que vous êtes ici ? Et comment vous sentez l'île vivre ?
Ah ben l'île, oui, beaucoup... Moi, je dirais qu'il y a beaucoup trop de monde maintenant. Enfin, elle est trop célèbre, on va dire. Hein. Trop de monde. Même là, au niveau... Enfin, je vois par rapport aux autres années que je travaillais là, on n'avait pas autant de monde l'hiver... que là, maintenant, l'hiver, on gère quand même des touristes aussi qui viennent en vacances. Donc, voilà, la population de l'île augmente de plus en plus. Et il y a beaucoup de résidents aussi qui viennent, des résidents secondaires aussi. Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent s'installer 6 mois à l'île-Dieu et 6 mois ailleurs.
Est-ce que vous le voyez ça dans la patientèle, ah, le oui. vieillissement ?
Oui, oui, beaucoup, oui. Et justement, je pense que c'est ça qui augmente aussi notre... la demande médicale, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées et qui ont de plus en plus besoin de voir le médecin. Il y a 30 ans, on s'occupait moins bien de nos aînés, et maintenant, on s'en occupe mieux, on va dire. On les voit plus régulièrement, qu'avant, on les voyait pas si régulièrement. Maintenant, on les voit tous les 3 mois, on les voit pour leur renouvellement, donc voilà, on les chouchoute, nos aînés. Voilà. C'est bizarre, il y a des... Bon, moi, j'ai plus d'ordinateur, ça va être compliqué. Travailler sans ordi ce matin.
Toi non plus ?
Il n'y a pas de connexion. Il y a toujours des problèmes. Centre de santé, bonjour. Ici, mais on arrive toujours. Enfin, je pense que les gens doivent éviter de se plaindre parce que vraiment, on arrive toujours à trouver une solution. Ah, on a toujours le médecin de garde si. S'il y a vraiment un problème. Quoi. On ne laisse pas les gens prendre le bateau pour aller sur le continent. Quoi.
Non, en fait, c'est aussi c'est lié à l'insularité. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de solution en dehors de ce qui est géré par l'hôpital, entre l'hôpital et le centre de santé, finalement, on a une organisation qui est tournée vers la permanence des soins, vers le fait qu'il faut toujours qu'on ait des rendez-vous non programmés, parce qu'on ne sait jamais, en fait, le besoin, est-ce qu'il va être important, peu important. Et puis... Et puis être en capacité d'absorber des petites urgences comme des grosses urgences. Donc en fait, c'est notre organisation qui est obligée de se faire autour du fait qu'il n'y a pas d'autre solution pour les gens que de venir nous voir s'ils ont un problème de santé. Donc voilà, il n'y a pas de relais, on ne peut pas leur dire allez sur le continent, allez voir un médecin généraliste dans la journée. On sait très bien qu'ils ne le feront pas. Et donc c'est potentiellement après aussi pour eux une détérioration de leur état de santé ou une perte de chance.
Oui, puis après, nous, on ne peut pas prendre le risque de ne pas les prendre, et sachant que si derrière il y a un problème, quoi.
C'est ça. Voilà.
On a notre conscience professionnelle.
Léa Gibert, c'est quoi votre rôle ici au centre de santé ?
Alors moi, je suis coordinatrice du centre de santé et du cabinet dentaire. Et ce qu'on appelle référente affaires médicales, c'est-à-dire que du coup, je m'occupe du recrutement des professionnels de santé, enfin des médecins, en particulier du personnel médical, et de l'organisation, notamment des plannings, donc entre le centre de santé, la SAS, donc la salle d'accueil spécialisée pour les urgences, et les semaines d'hôpital.
Depuis quand vous êtes là ?
Moi, j'ai pris ce poste en septembre 2023. C'est une création de poste, ça n'existait pas. C'était les médecins en fait qui entre eux organisaient leur temps de travail. Il y avait un médecin qui faisait le planning. Et puis le directeur donc délégué qui faisait le lien avec l'assurance maladie et toute la gestion administrative un peu sur la partie plus reporting en fait du centre de santé. Et donc comme les activités se sont multipliées, comme l'équipe quand même a grossi, hein, médical, secrétaire, l'hôpital aussi, l'activité de l'hôpital s'est diversifiée. En fait, ça devenait ingérable de faire reposer ça sur un médecin et puis sur le directeur délégué, dont c'est pas forcément le rôle d'être comme ça dans le quotidien, les mains dans le cambouis, comme on dit. Oui, voilà, j'ai pas toujours la solution, mais au moins j'ai l'écoute.
Oui, au moins on a quelqu'un pour nous écouter, voilà, c'est important.
Mais est-ce que vous connaissez l'île Dieu d'avant? Avant de vous installer ici?
Oui, moi je connaissais l'île Dieu en fait par des amis de mes parents qui m'emmenaient petite avec eux en vacances. Et puis en fait, par la suite, mes parents ont continué à venir, sont tombés amoureux de l'île Dieu et en fait, ont fait construire une maison il y a 20 ans. Pour venir s'installer à leur retraite. Et donc, ils sont installés ici maintenant depuis une vingtaine d'années. Et du coup, voilà, moi, je venais régulièrement, en fait, en vacances, évidemment, les voir. Et puis, à un moment donné, avec mon conjoint, on s'est dit que plutôt que de venir passer toutes nos vacances ici, on allait peut-être faire l'inverse, on allait peut-être s'installer ici et puis aller passer nos vacances ailleurs. Comme ça, ils profiteraient de leurs petits-enfants et nous, on pourrait aussi aller voyager un peu et retrouver aussi, nous, un peu une certaine forme de liberté. D'autres paysages avec d'autres climats.
Alors justement, d'autres paysages et d'autres climats, Léa Gibert, il y a plein de pays qui sont entrés dans votre vie. Vous avez une vie dans l'humanitaire, vous pouvez me raconter?
Vous ne voulez pas qu'on fasse ça parce que...
Je me sens un peu... Je me dis, en plus, les gens écoutent.
Est-ce que tu peux la refaire de là?
Non, toujours.
Comment?
Est-ce que tu peux la refaire de là? Ça va marcher. Non, comment? C'est de la renouveler, parce que ça se met...
Non, j'ai dit, d'accord. Nouvellement, on a une image de plein de gens de délai. En fait, quand vous allez prendre votre...
Ça, c'est mon bureau. Avec voilà, alors c'est pas à moi, c'était au docteur Andrieux qui a beaucoup voyagé aussi en Afrique et qui a ramené ce petit tableau Bon Docteur avec des petits dessins effectivement des différentes maladies qu'on peut retrouver un peu partout et très bien illustré voilà avec l'art un peu naïf qu'on retrouve en Afrique ou dans les Antilles. Et du coup bah oui, donc moi j'ai travaillé en fait dans l'humanitaire pendant une dizaine d'années où j'étais d'abord en fait sur le terrain. Je me suis retrouvée en fait embarquée dans un master en fait de droit international humanitaire et donc j'ai d'abord travaillé sur des projets de traite et trafic des enfants notamment entre le Cambodge et la Thaïlande et puis en fait petit à petit, à vraiment finalement être dans la gestion de projets d'urgence et à travailler pour des ONG ensuite médicales. Et donc, voilà, j'ai été amenée à travailler dans différents pays, aux Philippines, au Congo, au Kenya, en Ouganda, au Népal, après dans le Moyen-Orient, un peu plus sur la crise syrienne.
Est-ce que les viols comme armes de guerre au Congo, au Nord Kivu, c'est loin ?
C'est non, parce que je pense que ça reste toujours malheureusement d'actualité dans le monde. Donc l'actualité nous rattrape. Et voilà, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pas pu continuer à faire ce que je faisais, parce que quand on a des enfants, malgré tout, quoi qu'on en dise, ça change un peu le regard. J'ai eu beaucoup de chance de faire ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé faire ce que j'ai fait. Je pense que je ne pourrais plus faire ce que je fais. En plus, je trouve que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Ça va très, très loin. Et quand je vois ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, ça me bouleverse. Donc, voilà. Mais ça m'a appris tellement de choses que non, c'est toujours un peu là.
Alors, je vous ai vu citer dans la presse aussi comme maman qui avait des difficultés avec le problème des végétations d'une de votre fille en disant « Je suis... » coordinatrice du centre de santé, mais je me retrouve confrontée à l'insularité et donc il faut que je dépense des frais inconsidérés pour aller sur le continent la faire soigner. Racontez-moi.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est un peu la limite du système ici. C'est-à-dire que on essaie d'avoir le maximum de spécialités et de soins accessibles localement pour la population. Après, il y a forcément des choses qu'on peut pas faire ici, et donc il faut se déplacer sur le continent. Et en réalité, en fait, c'est vrai que ça demande en fait, c'est une charge en fait supplémentaire, puisque il y a le coût de transport. Il y a parfois un coût d'hébergement. Par exemple, moi, ma fille, elle s'est fait opérer. Donc, il faut venir le soir parce que l'opération des enfants, généralement, c'est très tôt le matin. Donc, il faut passer la nuit sur place. Donc, on a dormi à Nantes. Donc, il faut aussi se restaurer. Et puis, ensuite, il y a tout le suivi qui nécessite des allers-retours pour s'assurer que l'opération s'est bien passée, etc. Et ça, en fait, ce sont des coûts un peu cachés. Les coûts cachés de la santé, en fait, qui ne sont pas... pris en considération par l'assurance maladie ou même par nos politiques en fait, qui ne voient pas que pour moi cette opération qui finalement a été prise en charge à 100%, moi j'ai dû dépenser quasiment 350 € à côté de frais de transport, d'hébergement, etc., etc. Donc en fait c'est aussi ce qui fait que malheureusement il y a des gens qui ici ne vont pas aller sur le continent pour se faire soigner, qui auraient besoin d'aller voir un spécialiste pour x ou y raison, et qui ne le font pas, parce que même quand on est insulaire, c'est 15 € l'aller-retour, plus parfois l'hébergement sur place, et voilà, et toute une problématique en fait qui fait qu'il y a du non-recours aux soins, et qu'on a des gens qui parfois arrivent avec des états de santé qui sont dégradés, parce qu'ils ne sont pas allés voir les spécialistes que le médecin leur avait conseillé.
Alors, je vais regarder si j'ai une consultation rapidement, sinon je vous mettrai avec un médecin.
J'ai Pauline Bois, mais Pauline, elle a resté que 3 semaines, donc c'est un peu de temps. J'ai Marine.
Je regarde aussi.
Peut-être Claire Routière, peut-être.
Ah oui.
Une demi-heure.
De toute façon, si j'ai pas, je mettrai avec un médecin, et s'ils veulent... En urgence par l'ophtalmo, c'est eux qui gèrent.
Oh, ça va.
J'ai rien avant lundi 16, donc ça peut peut-être pas attendre lundi prochain. Bah non. Je vais vous mettre en consultation avec un médecin. 13h avec le docteur Rouxel, c'est possible? Oui.
Ouais, ok. Alors, écoute, je vais
C'est une dame, Claire Rouxel, okay. Qui est là cette année. Je vais prendre votre. Claire.
Moi, je m'appelle Gaël Moncani, je suis directeur général et pilote pour la compagnie Oya Vendée Hélicoptère, qui est une compagnie de transport public d'hélicoptères implantée sur l'île depuis le milieu des années 80. Et on se trouve sur l'hélistation de Port-Joinville, qui est une infrastructure qui est utilisée quasi exclusivement par la compagnie ou par les appareils d'État, en fait. Notamment pour des usages de sanitaires. Et nous, on opère sur cette hélistation pour transporter nos passagers entre l'Île-Dieu et Fromentine en face, chaque jour, toute l'année, de jour et de nuit. Et parmi nos missions, il y a le transport sanitaire au bénéfice de la population de l'Île-Dieu. Quand il se passe quelque chose sur l'île, vous tombez de vélo, vous appelez les pompiers. Le premier réflexe, c'est de faire le 18. Là, les pompiers vont se déplacer, les pompiers de l'Île-Dieu, qui sont des pompiers volontaires pour l'essentiel, vont se déplacer sur place en fonction d'un premier bilan qui aura été établi par la régulation du 18. On va déplacer directement un médecin sur place ou pas. Le médecin va vous prendre en charge au pied de votre vélo. Il va vous transporter à l'hôpital local ou au centre de santé. Le médecin de l'Île-Dieu va établir un diagnostic. En fonction du diagnostic, il va proposer à la régulation du SAMU 85, qui se trouve à La Roche-sur-Yon, hein, d'évacuer, de vous évacuer vers un hôpital du continent. Puisqu'il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas de chirurgie sur l'île possible. Et à ce moment-là, la régulation va prendre en charge votre transport de l'Île-Dieu vers un hôpital de la région et va nous solliciter pour faire ce transport. Donc nous, on va recevoir un coup de fil du SAMU 85, de la régulation du SAMU 85, qui va nous dire « on a besoin de vous, on a besoin de l'hélico pour transporter une personne qui a la jambe cassée ou entre l'Île-Dieu et l'hôpital de La Roche-sur-Yon. » Et nous, on se tient à la disposition du SAMU pour réaliser ce genre de vol. On a un contrat avec eux, comme la plupart d'ailleurs des hélicoptères qui interviennent dans le paysage du transport sanitaire français. Ce sont que des hélicoptères de sociétés privées qui contractualisent avec les agences régionales de santé. Et donc nous, eh bien, on met à la disposition du SAMU l'hélicoptère et son équipage pour ensuite pouvoir accueillir ici la victime qui peut avoir par exemple la jambe cassée. Effectivement, c'est les pompiers de l'Île-Dieu qui vont faire ce premier transport et qui vont vous amener au pied de l'hélico dans lequel vous allez être chargé et ensuite transporté.
Et parfois, ce n'est pas une victime, c'est des fioles de prise de sang.
Alors ça, c'est un domaine un peu différent. Effectivement, il n'y a pas de laboratoire d'analyse biologique sur l'île. Donc la compagnie transporte chaque jour les prélèvements biologiques qui sont réalisés sur l'île par les médecins, les infirmières, etc. Et on les transporte vers le continent où ces prélèvements sont récupérés par un laboratoire d'analyse biologique chaque jour. Et les résultats parviennent sur l'île, du coup, avant la fin de la journée. Ça, c'est plus du transport de fret. Fret entre guillemets, fret particulier, mais fret quand même. La compagnie s'inscrit dans tous les services au sens large qu'elle peut rendre à la population de l'Île-Dieu, le transport du courrier, le transport de la presse quotidienne, le transport sanitaire, le transport des analyses biologiques, le transport des passagers, évidemment.
L'obstacle, en fait, c'est le brouillard.
Quand les conditions ne sont pas suffisantes pour l'hélico, eh bien, c'est la SNSM, c'est le canot de sauvetage de la SNSM qui se substitue à l'hélico et qui fait le transport sanitaire. Dans des conditions un peu moins confortables, forcément moins rapides, avec des transferts forcément derrière entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les hôpitaux de la région. L'avantage de l'hélico, c'est ça aussi, hein, c'est que nous, on peut se poser directement sur le toit de l'hôpital, quoi. Donc la prise en charge des malades, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable. Nous, on réalise à peu près, d'une année sur l'autre, entre 160 et 200 évacuations sanitaires, transports sanitaires dans l'année. Et curieusement, d'une année sur l'autre, on a toujours à peu près la même proportion de nuits. C'est-à-dire qu'on est toujours à peu près à 30% de nuit, quelles que soient les années. C'est une proportion assez constante, étonnamment.
On vient d'entendre la cloche de l'église Dieu qui nous dit qu'il est 16h et que le vol va commencer.
Voilà, alors c'est 16h15 le décollage, mais il ne devrait pas tarder à embarquer et à préparer l'hélico pour ça.
Et Gérard m'a renseigné, si j'ai regardé un peu le palmarès, parce que je vous ai dit pour descendre ensuite 3h45 ans, ce monsieur a quand même été champion du monde de biathlon de sa catégorie d'âge en Australie en 2021, je crois. Ouais, vous pouvez tout ça, moi c'est Gérard. Il a gagné notamment le 36 bornes de l'Ultra du Morbihan, le Rail du Morbihan, enfin voilà. Donc on a un vrai recouvreur aussi, comme par les autres aussi sur le podium. Bravo, on est avec lui ici.
Bonjour. Pierre-Antoine Mousset, bilan des courses. Alors,
bilan des courses, a priori de très belles courses, mais pas de grosses histoires médicales, donc c'est le principal.
De la bobologie.
De la bobologie, on peut le dire, oui. Non, oui, il y a eu quelques personnes qui sont venues nous voir et puis qui ont dû passer à l'hôpital. Pour faire une radio, pour avoir un petit peu plus de matériel, mais rien de grave.
Mais sur 1000, c'est pas mal.
Sur 1000, oui, là, il y a peut-être 10 personnes qui sont venues nous voir. Donc c'est dérisoire.
Votre spécialité, c'est la dermato?
Ma spécialité, c'est la médecine générale, mais du fait de la situation française actuelle, c'est vrai que j'ai une formation complémentaire en dermato. C'est la CPTS. Une organisation territoriale où qui permettent en fait d'avoir des financements et pour organiser les soins dans un secteur. Donc là c'est Loire Vendée Océan, c'est celle de Challans et donc les dermatologues, du fait de leur déficit en nombre, en fait ils ont organisé une formation des médecins en dermatologie, donc en dermoscopie, c'est-à-dire l'analyse des petits grains de beauté, etc., pour savoir ce qui est cancéreux ou non. Et en plus, j'ai ajouté par-dessus de la chirurgie dermatologique pour retirer les cancers.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cet organe qui fait 2 mètres carrés et 5 kilos pour un homme comme vous? C'est à la peau.
La problématique ici, c'est que les gens prennent beaucoup le soleil. On n'a pas forcément eu aussi une politique de prévention, quels que soient les milieux. Et donc c'est vrai que là, il n'y a pas eu aussi de dermatologue pendant un moment. Donc c'est vrai que là, on essaye de rattraper le retard. Je pense que j'aurais pas de, les journées libres ne font jamais arriver. Mais c'est fait pour. Je me suis posé la question dès le début, avant de commencer une formation complémentaire, de me dire quel est le besoin ici. Et ça, c'est venu très rapidement.
Vous avez un contact encore plus intime avec les gens de la population.
Oui, je ne sais pas si le fait de toucher physiquement encore plus les gens, est-ce que ça rapproche encore plus? Je n'ai pas l'impression, mais peut-être aussi tellement l'habitude des corps, avec du fait de notre travail, que je ne suis pas persuadé que le toucher physique soit plus intime que la connaissance des histoires de vie. Bon, je ne suis pas persuadé.
Et est-ce que, depuis que vous êtes arrivé, justement, vous êtes dépositeur d'histoires de vie que les gens vous racontent à travers une consultation?
Bien sûr. Bien sûr, c'est un petit peu, je trouve, l'essence en fait, du métier de médecin généraliste. C'est-à-dire, on est un petit peu sanctuaire aussi des histoires familiales qui peuvent arriver. Et quand la confiance réussit à s'établir, ils savent que en fait, ce qui est déposé là reste là et ne repart pas ailleurs.
Il y a qui aux urgences comme médecin là?
Le docteur Larbor, que vous connaissez bien.
Allez le voir.
Ouais. Vous pouvez aller le voir. Je l'ai eu au téléphone 2-3 fois ce matin pour lui orienter des personnes. Bon, j'ai pas eu l'impression qu'il avait l'air débordé. Mais bon, il s'occupe autrement, on va dire, parce qu'il y a le côté médical et puis le côté administratif.
Premier M3 maintenant, Julien Batelier.
Thank you.
Bastien Desplanques, est-ce que vous pourriez me décrire ce que vous avez dans la main gauche et dans la main droite?
Donc là, j'ai un Dynamap qui me sert à prendre la tension, le pouls et la saturation. Mon chariot avec les traitements, de quoi faire les premiers soins, faire une glycémie, j'ai le thermomètre aussi, donner des traitements. Voilà.
Pourquoi infirmier dans votre vie?
Pourquoi infirmier? Bah, c'est arrivé très tardivement, c'est un choix tardif qui m'est arrivé. J'ai repris des études à l'âge de 32 ans. Donc voilà, j'avais une vie familiale avant, enfin une autre vie, et puis je voulais faire quelque chose qui me plaît. Je suis passé par une petite porte, j'ai fait être soignant. Puis je suis arrivé à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'ai passé le concours infirmier. La chance d'être dans le public des fois, c'est que du coup on peut passer des concours et être financé durant nos études. Et du coup j'ai validé le concours et je suis rentré dans 3 ans d'études financé.
La vie professionnelle d'avant, c'était quoi?
La vie professionnelle d'avant, Donc moi j'étais maître d'hôtel. Pour un petit ministère, j'ai travaillé en intérim, j'ai travaillé un peu dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'équipement automobile, j'ai fait plein de choses, quoi. Très intéressantes aussi, mais qui n'avaient pas de sens pour moi.
Voilà. Donc là, vous avez quel âge?
Là, j'ai 51 ans.
Donc ça fait 20 ans que vous avez basculé dans le monde de la santé, on va dire.
20 ans, j'ai fini mes études. Alors ça va faire, je suis diplômé de 2010, donc ça va faire 15 ans que je suis infirmier. Et à peu près 5 ans avant où j'étais entre mes études et aide-soignant.
Et là, la fonction est raccord avec vos valeurs?
Ah bah complètement, oui. Je trouve que ça a du sens. Ça a du sens, enfin en tout cas pour moi, hein. Après la durée de vie d'un infirmier est pas très longue, hein, en moyenne, donc c'est un métier qui nous permet déjà de nous remettre en question, de changer de spécialité, de voyager, de reprendre des études. On peut faire IPA, on peut faire infirmier de bloc, c'est assez divers et varié. Donc c'est un peu l'avantage de ce métier-là, c'est que quand on est à saturation, on peut se remettre en question et puis partir vers d'autres horizons, d'autres spécialités, soit dans le même hôpital, soit dans une autre région, soit dans un autre pays, soit on peut faire de l'humanitaire. Donc non, c'est la chance de ce métier, quoi.
Clinique. Donc on a deux médecins en formation, un facilitateur du SAMU 85 et toutes les autres personnes sont dans la salle de réunion. Ils regardent la situation en vidéo et ensuite ils vont débriefer. Le scope est connecté à l'ordinateur, donc on choisit des paramètres
vitaux, on met tout ce qu'on veut, tachycardie, hypoventilation, hypotension. Et donc du coup, ça c'est les éléments que les médecins en formation ont devant eux. Ils miment la situation comme ça.
Bonjour, on est les médecins,
bonjour.
Vous êtes le papa?
Ouais, je suis le papa, c'est mon enfant, là, c'est Timéo, là. Oui. Il a 2 ans, parce qu'on arrive en vacances, ouais. Et j'ai un peu dans la piscine, là, tout à l'heure.
Bonne idée. Vous l'avez retrouvé dans la piscine? D'accord.
Il était au fond de la piscine, et c'est quand je l'ai ressorti, il a
d'accord. Et vous avez commencé tout de suite le massage
cardiaque? Ouais, bah, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé des secours, et puis ils m'ont dit de commencer le massage cardiaque. Okay.
On a fait 2 analyses
de sang choc
et
depuis combien de
temps vous êtes là,
donc 2 analyses
de sang choc.
Ouais,
on a fait à peu près 1 minute
qu'on est là.
Okay. Alors on va pas prendre les conscience, on va bander et mettre le patch.
Ok.
Hop. Donc vous avez mis le patch, on va peut-être mettre le patch.
On a la chance ici d'avoir donc une activité d'urgence et donc du coup d'avoir la formation qui va avec de médecins correspondants SAMU. Ils nous forment sur tous les gestes d'urgence. Comment intervenir, surtout finalement d'un côté pratique, tout ce qu'on connaît du théorique, le mettre sur un plan pratique, diluer les drogues, enfin voilà, revoir comment poser les perfs, etc., etc. Quand on est tout seul devant un cas d'urgence, comment réagir.
Connecter les électrodes de thérapie.
C'est fait normalement.
Est-ce que la gestion du stress est partie de votre formation?
Alors moi j'ai peut-être de la chance de ne pas avoir forcément un tempérament très stressé, mais ça fait partie du parcours et je pense qu'on s'y forme au fur et à mesure en rencontrant des situations, en étant accompagné en stage et en apprenant à gérer ces situations. On n'a pas vraiment de formation pour ça. Il faut qu'on se fasse accompagner pendant les stages et qu'on apprenne par nous-mêmes finalement à gérer le stress.
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de mort?
Oui.
Alors c'était quoi?
Ben, il faut réussir à s'en détacher et souvent c'est dans des contextes hospitaliers et donc en fait il y a tout le contexte médical qui va avec et les choses se passent bien en général.
Moi je vois respirer ici.
Ah moi je le vois pas.
C'est ça. On voit
respirer. Okay. Respiration, on va regarder s'il a des trous du coup.
Ouais, on va le mettre sur le côté déjà. Hein, voilà.
Vous avez un masque quand même là, docteur?
Voilà. Bah, on va arrêter là.
L'espèce de sentiment qui paraît être collé. Et là, enfin oui, l'upside. Et là, après, je sais pas, j'étais un peu perdue sur qu'est-ce qu'il fallait poser, comment manger. Ouais. Et puis il y avait ce tuyau là, je savais pas comment foutre de ce tuyau. Je me disais, mais à quoi il sert? Pourquoi il est là? Bah, moi, j'aurais branché directement la tubulure sur le.
Ouais, il y avait juste le petit raccord.
Et ben oui, mais c'est ce raccord, ouais. En fait, je savais pas trop quoi en faire. Donc après, tu vois, j'ai fait mon vide avec la seringue, mais alors là, du coup, après, un peu perdue quoi. Et puis alors là, la dilution, mais l'enfer, parce qu'en fait, j'essayais de monter mon adrénaline dans la seringue, mais je voyais qu'il y avait plein d'air, et j'arrivais pas à faire partir l'air, et je comprenais pas. Alors là, tu sais, c'est le moment où, en fait, t'es dans le stress, t'es dans la panique, du coup, t'as envie de dire, bon, si quelqu'un est plus habilité, c'est le moment de vous déclarer, parce qu'en fait, on va pas perdre du temps pendant 15 minutes dessus. C'est vraiment. En fait, tu cherches pas à vouloir essayer à tout prix de le faire, tu dis juste, il faut qu'on trouve un moyen que ça soit fluide, quoi.
Mais c'est en même temps, c'est stressant. Hein. T'as tout le monde à côté. Et puis, l'adré, tu dis en dilué, mais on est d'accord que c'est pas dilué.
Si, chez l'enfant, t'es obligé de le rediviser.
Ah, chez l'enfant, tu veux.
En fait,
c'est trop petit. Ça.
Chez l'enfant, ah, mais oui, c'est petit, vrai. Tu le redivises par 10 à chaque
exact,
fois.
Exact, exact.
Donc, en fait, ça fait le poids. J'ai tout à fait. Je me plus. Et quand elle m'a redit que tu dilues, ça fait ah oui, c'est vrai qu'on l'avait déjà.
Exact.
Alors, du coup. Pierre et Camille, heureusement que vous avez demandé de garder nos émotions. On va commencer à discuter. Ouais. Hein. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce cas-là, qui est celui que tout le monde redoute, en fait. Même si on verra, mais c'était pas forcément le plus compliqué. Comment vous sentez là maintenant après ce passage là, sur un enfant en arrêt sur une noyade?
C'est stressant comme situation. Donc on a quand même toujours l'envie que ça aille
que j'arrive à faire les trucs plus vite que ce que je peux vraiment faire, enfin, à la vitesse à laquelle je peux faire.
T'as envie d'être ce Wonder Woman, c'est ça?
Je trouve toujours que ça va pas assez vite. Ouais. J'ai envie que les choses soient faites. Donc.
Ok. Et t'as des choses, t'as des exemples précis à donner? Je voudrais que ça aille plus vite. Qu'est-ce qui, selon toi...
Je voudrais que tout de suite avoir une voix et surtout avoir une voix rapidement. Et en fait, être multitâche...
Marc-Antoine Larvar, dans votre carrière, est-ce que vous avez eu des moments difficiles?
Oui, bah bien sûr, surtout quand on fait de la médecine comme ça de premier recours. Quand on est dans un établissement de soins hospitalier, il y a, bon, voilà, en général, la mort est quelque part un peu prévue. On sait que voilà, on est dans un accompagnement de fin de vie et voilà, les choses se font comme ça. Ce qui est plus difficile, c'est les morts accidentelles, les noyades, parfois chez des personnes jeunes, les morts par suicide, ceux qui tombent de la falaise, qui arrivent pas en très bon état en bas, les suicides par arme à feu, ça c'est toujours difficile, les pendaisons, voilà. Ça c'est des contextes qui sont assez particuliers et. En tout cas, on essaye, c'est vrai, d'une part de s'en détacher, mais on se rend compte que voilà, quand il y a des morts violentes comme ça et que les médecins, mais également les sapeurs-pompiers qui interviennent, sont confrontés à ça, et ben on essaye de mettre en place des débriefs assez rapidement à la caserne pour voilà, pour se rencontrer, pour juste prendre un café, débriefer, recontextualiser et pas rester avec des questions ou des images qui peuvent vous hanter, c'est vrai, assez longtemps.
Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la confrontation avec le corps, ça c'est votre quotidien, là le corps mort, ou est-ce que c'est la confrontation avec la famille et donc l'affect?
Bah c'est, ouais, c'est plus, en fait, le corps mort, bon bah voilà, une fois qu'une personne est morte, elle est morte, c'est tout l'à côté, la famille, les proches, ceux qui étaient témoins directs, dans les morts traumatiques, ça peut être difficile à gérer. On ressent en fait la peine des gens, et ça, bon voilà, faut essayer de trouver sa place, être à l'écoute, mais pas trop. Il faut garder notre place. On n'est pas des membres de la famille. C'est pas notre histoire, bien qu'on y soit touché. Hein. Mais il faut essayer de trouver une certaine neutralité. C'est ça qui est peut-être le plus difficile.
Les urgences, tout le monde sur le pont, avec Marc-Antoine Larvor, chef de service de l'hôpital du Montet, les docteurs Claire Gallet et Pierre-Antoine Housset, l'interne Marine Perrion, l'infirmier Bastien Desplanques, le pilote et directeur général de la société Oya Vendée Gaël Moncanis, Karine Boury, secrétaire médicale, et Léa Gibert, coordinatrice du centre de santé. La série documentaire, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Marivonne Bolivier et Anaïs Morales, mixage Manon Houssin, réalisation Thomas Duterre, un documentaire de Michel Pomarède.